Voilà ce coup de massue sur l'économie mondiale. Donald Trump vient donc de dévoiler son arsenal protectionniste en ce jour de la libération, comme il l'a qualifié. Nous sommes pillés depuis des années par des pays amis et aujourd'hui, il annonce des droits de douane réciproques et ça fait très mal, cette déclaration d'indépendance économique, comme il la surnomme le président américain. Edith Chevrillon, on va essayer d'y voir plus clair sur ce qui a été annoncé ce soir par Donald Trump. Ça va être difficile, graphique à la pluie. Ce que l'on comprend, 10% de droits de douane minimum
pour tout le monde.
Pour tout le monde. Ouais. Et ensuite, il est arrivé avec un graphique, un classement des bons et des moins bons élèves. Et en fonction, on augmente les droits de douane.
Des droits de douane réciproques. Et donc, en fonction du taux des droits de douane existants, il nous a montré un graphique, effectivement. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Union européenne, où on a 39%. Cela dit, il faut quand même vérifier d'où vient ce calcul. C'est ça qu'on a un peu de mal à comprendre. Sans doute, il inclut dedans la TVA, parce que c'est vrai que c'est très difficile.
Alors, on le voit, ce fameux graphique sur lequel il s'est appuyé. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir un professeur qui donnait les bons et les mauvais points. Il a parlé de l'Union européenne. Il a dit, c'est vraiment pathétique. 39% de droits de douane, on va revenir effectivement dans un instant sur ce chiffre, d'où il sort ce chiffre, et il dit, eh bien, en représailles, on appliquera désormais 20% de droits de douane.
Non,
tous les produits européens.
Ce qui est assez frappant quand même, c'est qu'on se retrouve, on a l'impression de se retrouver au 19e siècle, voire au 20e siècle, avant toutes les grandes négociations qui ont été faites et qui ont lancé la mondialisation. Alors la mondialisation a été poussée sans doute à des extrémités, donc il fallait peut-être revenir dessus, mais là, il casse absolument tout le commerce mondial, enfin, il faut voir comment ça va s'appliquer, évidemment, mais il casse absolument tout le commerce international tel qu'il était fixé aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, il dénonce le grand accord commercial qu'il y a entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Il met des taxes à des niveaux quand même considérables, que ça soit pour les Japonais, que ça soit pour les Coréens, que ça soit même pour les Indiens, pour l'Union européenne, évidemment. Donc, on se demande quelle est sa vision du commerce mondial, si elle existe. À mon avis, le commerce mondial, pour lui, ça doit se limiter aux États-Unis.
En fait, ce qu'il dit, il dit, ça fait des années qu'on est pillé par des pays, y compris des pays amis. Ce qu'ils nous font, on va maintenant leur appliquer. Donc, ce sera des droits de douane réciproques. Ce chiffre de 39%, parce que quand même, il nous interpelle, parce que il dit, voilà, l'Union européenne taxe à 39% les produits américains, donc nous, on va leur appliquer 20%. Il sort d'où, ce chiffre de 39%?
Alors, l'Union européenne ne taxe pas à 39% les produits américains, sinon les produits américains que vous achetez seraient beaucoup plus chers. Donc, ce chiffre, d'où il sort exactement, j'en sais rien. Je pense qu'on additionne des choux et des carottes. Alors, il y a un petit peu de droits de douane, notamment sur certains secteurs, donc il y a ça. Je crois que l'administration américaine ajoute aussi les taux de TVA, parce qu'ils considèrent que la TVA, donc en France, c'est 20%, par exemple. Donc, on considère que la TVA, c'est aussi du protectionnisme. Et je pense aussi qu'ils ajoutent, alors je sais pas comment ils font le calcul, mais tout ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires, c'est-à-dire les normes, par exemple, qui sont appliquées aux produits américains. En Europe, oui, il y a des normes. Dans l'agroalimentaire, par exemple, on mange pas n'importe quoi. Donc, il y a des normes. Donc, je pense que ce coût.
Mais aujourd'hui, factuellement, on taxe à combien en moyenne?
À quelques pourcents, en moyenne.
C'est quoi, quelques pourcents?
On taxe à moins de 10%.
On taxe à moins de 10%, il va nous appliquer 20% sur tous les produits. C'est ça, la vision de la réciprocité.
Attendez. Bon, ces chiffres, je sais pas d'où ils viennent. Honnêtement. Mais quand je dis ça, ne le prenez pas pour un aveu d'incompétence de ma part. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est relativement général, mon sentiment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous avez suivi ce qui se passe depuis 6 semaines à l'égard du Mexique et du Canada, en fait, vous savez que des annonces peuvent être suivies d'une suspension le lendemain. Donc, je reste un tout petit peu philosophe, si
alors,
vous voulez.
Les droits de douane sur l'automobile, plus 25%, c'est...
Ça, ça a été déjà annoncé
demain matin, voilà. C'est confirmé.
Ça a été annoncé,
Le 3 avril,
Mais sur les 20%, si vous voulez, qui ont été annoncés, je dis pas que ça va pas s'appliquer, mais je dis que ce qu'on a vu ces dernières semaines avec le Mexique et le Canada, et la Chine aussi, qui ont été les premiers frappés, c'est que il y a quand même beaucoup d'aller-retour et tout ça, et pas aussi évident que ça.
Mais il y a beaucoup de communication?
Mais en fait, le président Trump, il peut mettre en place des droits de douane un jour, et puis le lendemain dire c'est suspendu dans 15 jours, et puis 15 jours après mettre des droits de douane beaucoup plus élevés, et puis finalement plus faibles. Donc ça, c'est quand même ce que vivent donc le Canada et le Mexique depuis 6 semaines. Mais surtout, pour nos téléspectateurs, pour bien comprendre ce qui se passe, parce que je lis ici ou là, l'Europe va payer 20%, mais l'Europe ne va rien payer. ce sont les consommateurs américains et les entreprises américaines qui payent ces droits de douane.
Et les entreprises françaises aussi qui vont payer,
non,
d'une certaine façon.
Non.
Qui paieront, je veux dire, dans la consommation, parce que consommateurs américains vont de fait se détourner des produits français.
J'en sais rien s'ils vont se détourner des produits français.
Mais l'Union européenne va imposer des mesures. Attendez,
là vous êtes dans le coup d'après.
Mais si Trump taxe à 20% l'Europe va réagir.
Oui.
Donc d'ici la fin avril, on saura que tous les produits américains vont augmenter en Europe.
Les
consommateurs vont payer aussi.
C'est douane, c'est un choc fiscal massif sur les consommateurs et les entreprises américaines.
Alors justement, on va voir.
C'est aussi un choc pour les constructeurs automobiles européens, allemands en particulier, qui vont payer maintenant plus 25% pour voiture aux États-Unis.
Qu'on s'arrête,
c'est considérable.
Il a dit beaucoup de choses et on reviendra évidemment dans un instant sur l'impact pour nous, consommateurs français, parce qu'effectivement, c'est pas ces droits de douane imposés par les États-Unis qui vont avoir des répercussions sur les prix que nous, on va payer. En revanche, les représailles de l'Union européenne, effectivement, pourraient créer...
Guerre commerciale, la hache de guerre de Trump est déclarée. Et donc, oui, ce soir, c'est effectivement, comme dit Trump, un jour historique. C'est le jour où la guerre commerciale est déclarée entre la Chine, l'Europe, l'Inde, le Vietnam qui va être taxé à 46%. Donc, c'est vraiment une guerre qui commence aujourd'hui, dont on a encore du mal à mesurer véritablement les conséquences, mais c'est vraiment un choc planétaire qui va toucher toutes les économies et qui risque, d'abord, effectivement, pour les consommateurs américains, de provoquer une inflation qui va coûter très cher aux ménages. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump, tout à l'heure, dit une chose très importante. On va baisser les taux des crédits pour acheter les voitures. Il sait que ça va coûter cher aux consommateurs américains. Et puis, l'autre chose, c'est que ça risque, effectivement, d'entraîner une récession. Parce que, en fait, les Américains se barricadent derrière des tarifs douaniers. Et donc, pour toutes les entreprises qui exportaient aux États-Unis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le Mexique, le Canada, même s'ils ont pour l'instant mis à l'écart. Mais vous imaginez, d'un seul coup, c'est la fin du système commercial de libre-échange que l'on connaissait depuis les accords de Bretton Woods, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un choc majeur.
Donc, plus d'un siècle qu'on n'a pas connu des taxes de cette ampleur-là.
Ce sont les économistes qui peuvent le dire.
Je confirme. On peut parler de déflagration sur le commerce mondial.
Je suis d'accord. Parce qu'en effet, en fait, tout l'enjeu, ça va être de quelle façon les grands pays, enfin l'Union européenne, la Chine, etc., répondent à ça. Et si on entre dans une guerre commerciale, c'est-à-dire si l'Union européenne demain dit, nous aussi, on taxe 20%. Président Trump va dire, puisque c'est comme ça, moi c'est 30%. L'Union européenne va dire 30%. Et là, vous entrez dans quelque chose qui est une véritable catastrophe. C'est-à-dire, en effet, comme l'a dit Ulysse
Gosset... C'est la fin de la mondialisation, telle qu'on l'a connue.
C'est très concrètement...
On ne peut pas ne rien faire.
Attendez, on va jouer le coup d'après tout à l'heure.
On ne va pas se laisser donner un coup de massue et puis rester sans réagir. Donc l'Europe doit réagir. Elle a préparé des contre-mesures, lesquelles, à quel niveau, on verra. Mais quand vous avez des chiffres très impressionnants, la Chine, plus 34%, le Vietnam, plus 46%, l'Inde, plus 26%, et nous, les Européens, plus 20% de droits de douane, c'est un choc massif.
Non, mais on se posera la question tout à l'heure des représailles, effectivement, de l'Union européenne et quelle pourra être la riposte de l'Union européenne. Mais d'abord, j'aimerais qu'on accueille Gabriel Picard. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France. Vous me disiez pendant le discours de Donald Trump, aujourd'hui, nos produits, ils sont taxés à 0%.
Alors, il y a deux choses.
Demain,
il y a
ils sont taxés à 20%.
Et les spiritueux. Ouais, et les spiritueux, depuis 30 ans, on a un accord qui s'appelle le 0 pour 0. C'est-à-dire qu'il y a zéro taxe sur les spiritueux qui rentrent aux États-Unis et il y a zéro taxe sur les spiritueux américains qui rentrent en Europe.
Donc vous allez faire un bond, vous allez passer de 0 à 20% sur les spiritueux.
Exactement. Et alors, une des solutions qu'on apporte et qu'on a porté à la connaissance effectivement de l'exécutif français et de la Commission européenne, s'agissant des vins, c'est de dire, dans l'esprit d'un accord réciproque, et il faut avoir des solutions positives aussi, sans être naïf, c'est de dire la même chose sur les vins. Aujourd'hui, les vins qui rentrent aux États-Unis sont taxés à 2%, et à l'inverse, les vins américains qui rentrent en Europe sont taxés à 4%. Donc, ce qu'on propose, c'est un reciprocal and fair trade agreement sur les vins, qui serait une façon de prendre M. Trump au mot et d'appliquer une vraie réciprocité dans le secteur des vins.
Mais avec un impact, là, pour le coup, pour le consommateur français.
Avec un impact pour le consommateur français.
Même si on consomme moins de vin.
Solution un peu positive, ce qui n'empêche pas qu'il faut être tout à fait conscient de la difficulté de la situation,
naïf. Vous vous y attendiez à ces 20%, c'est un coup de massue auquel vous préparez.
Depuis les derniers jours, je dirais que c'est une sorte de demi-surprise. Ouais. On y était préparé, pas il y a 6 mois. On avait en tête que des choses pouvaient se passer. Depuis quelques jours et quelques semaines, on imaginait qu'une solution de ce type serait mise sur la table. Donc c'est une demi-surprise. Ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, c'est désolant. C'est désolant, et vous l'avez dit, pour tout le monde. Et c'est néfaste. Et c'est néfaste, soyons clairs, pour tout le monde. C'est-à-dire pour le consommateur américain, pour les États-Unis, comme pour tous les pays qui sont touchés. Et il n'y aura que des perdants. Et l'histoire l'a montré. Et je pense que l'histoire le montrera de nouveau.
Il y a un fait significatif, c'est que le discours de Trump a eu lieu à 16h aux États-Unis, 22h de Paris. Pourquoi ? Parce qu'à 16h, c'est la fermeture de la bourse, la cloche de Wall Street. Et on attend le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à une réaction très négative et à des chutes des cours de bourse, notamment pour les constructeurs automobiles. On verra demain, le réveil va être très dur. On suivra demain à 9h, heure de New York, 15h, heure de Paris, ce qui va se passer à Wall Street. Mais c'est dire que même aux États-Unis, on serre les dents parce qu'on sait que les conséquences vont être considérables.
Sachant que les résultats économiques, déjà, depuis l'arrivée de Trump, ce ne sont pas fameux.
Oui, ça pointe vers le bas.
Le chômage remonte, les prix ont augmenté. Ouais. Il a parlé 3 ou 4 fois du prix des œufs parce que on me racontait aujourd'hui au téléphone qu'il fallait dépenser 19 ou 20 dollars pour acheter 12 œufs. Là, il a dit que c'était en train de baisser. Mais c'est vrai qu'il y a un retour de l'inflation aux États-Unis, ce qui est exactement le contraire. Il a passé toute sa campagne à promettre monts et merveilles aux Américains et à dire l'inflation, c'est fini. Avec ses droits de douane, l'inflation va repartir.
D'ailleurs, pendant le discours de Donald Trump, au moment où il annonçait ses droits de douane réciproques, le dollar a perdu 1% face à l'euro. Oui. Qu'est-ce que ça traduit ?
Ça veut dire quand même qu'il y a des inquiétudes effectivement sur l'état de santé de l'économie américaine. Et on a bien vu tous les analystes, y compris le Goldman Sachs, qui prévoit effectivement une récession avec une probabilité importante. On voit bien qu'il se trouve dans une situation très complexe parce que lui, il s'est dit droits de douane, on les augmente 20%, ça va nous faire rentrer, comme vous avez, ça fait rentrer à peu près 600 milliards de dollars par an, donc ça va équilibrer la dette américaine qui est absolument abyssale, et puis en plus on va baisser, ça va faire baisser le dollar, ce qui est très bon d'une certaine manière, parce que du coup on peut vendre plus facilement à l'étranger. Mais comme là, il est en train d'établir comme une sorte de citadelle, les États-Unis vont devenir une sorte de citadelle économique, lui, il va falloir qu'ils achètent et ils vont se retrouver avec un dollar, même le consommateur américain, qui sera beaucoup plus faible. Donc vous vous trouvez dans des situations où celui qui va être le dindon de la farce, ça va être le consommateur américain.
Et pourtant, ce qu'il promet ce soir, c'est de rendre l'Amérique riche à nouveau. Je vous propose de la réécouter.
Vous voyez la Chine ici, 67% de droits de douane. Et nous, nous allons appliquer 34%. Donc, on leur fait payer moins finalement. Il n'y a pas de raison d'être fâchés. Mais ils vont être fâchés quand même parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse payer quoi que ce soit. L'Union européenne, ils sont très durs dans le commerce. Parfois, on pense à l'Union européenne, ils sont très sympathiques. C'est vraiment pathétique. Ils nous font payer 39% et nous, on va les faire payer 20%.
On va revenir sur les conséquences pour les entreprises françaises et les secteurs concernés, mais quand même, Bruno, Anna, un mot sur ce qu'il vient de dire concernant l'Union européenne. Il disait voilà, il y a des amis qui sont parfois pires que nos ennemis dans nos échanges commerciaux. Et sur l'Union européenne, il dit, ils sont vraiment pathétiques.
Oui, on a eu droit à un traitement spécial de la part de Donald Trump. C'est sans surprise, mais c'est toujours assez dur à entendre de la part de l'Amérique, des États-Unis. Ça reste notre allié. Et de la part, ça reste un allié historique pour la France, en tous les cas. Et c'est vrai que là, c'est une guerre commerciale qui est déclarée clairement
ça va plus loin.
À l'Union européenne. C'est vrai que Ulysse le disait tout à l'heure, on attend de savoir quelles vont être les mesures de rétorsion, parce que la réponse de l'Europe, alors elles sont prêtes, on va voir jusqu'où est-ce qu'elles vont changer entre l'attendu et le réel. Maintenant, on verra l'ajustement qui va être fait par la Commission, mais c'est très dur et c'est deux années extrêmement compliquées qui s'annoncent. On le savait avant ce discours. On en a la confirmation ce soir.
Anna ?
Oui, mais on avait beau le savoir, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, là, on s'y attendait. Et en même temps, la scène a quelque chose de surréaliste, quand même. Il faut juste faire un tout petit pas de côté et regarder ce à quoi on a assisté. C'est-à-dire qu'on a le président des États-Unis d'Amérique qui a sorti une espèce de graphique, un tableau avec des bons et des mauvais points. Et en passant en revue les pays les uns après les autres, dont l'Union européenne, et en décernant, enfin,
oui, on avait l'impression d'un professeur qui distribuait les notes et
avec
les sanctions,
avec des petites remarques un petit peu ironico-sarcastiques et désobligeantes, voire disqualifiantes. Ouais. Non, mais genre, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il y a, quelque chose. Oui, il faut s'arrêter sur le surréalisme de cette scène, y compris de la scénographie, évidemment, et le contenu des propos incroyable. L'adjectif pathétique pour parler de l'Union européenne. Alors on va dire qu'on se sent blessé, mais c'est pas. Bon. Mais au-delà de ça, ce que je non mais
ne va pas faire très bon en défendre Donald Trump de ce côté de l'Atlantique.
C'est pas évident de voir. En plus, il disait voilà, un tel est mon ami, mais en fait, vraiment, il est pas à la hauteur.
On attend
incroyable quand même.
C'est vrai qu'on attend de voir ce que vont dire ceux qui de ce côté-là de l'Atlantique sont officiellement des soutiens ou officieusement des soutiens de Donald Trump. Je pense à l'Italienne Giorgia Meloni, je pense à Viktor Orban, deux trois autres comme ça. À mon avis, ça peut être facile. Politique intérieure française, ils n'étaient pas très nombreux.
Et le seul qui s'en sort, finalement, c'est les Britanniques.
Oui, la 10%,
Grande-Bretagne.
Oui, 10%.
Seulement 10%.
Mais, oui,
et vous avez vu que Donald Trump dit « nous, on est des gentils ». Alors, il l'a répété plusieurs fois, hein, c'est-à-dire que nous sommes des gens gentils, nous sommes bons, en fait, on s'est fait avoir pendant 50 ans.
J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. D'où elle vient, cette idée? Pourquoi il dit « on s'est fait piller pendant des années, depuis 50 ans, on se fait piller, y compris par des pays amis » D'où vient cette idée-là?
Elle vient du fait que les États-Unis ont des déficits commerciaux, c'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent de produits avec l'Union européenne, avec la Chine, avec le Canada. Donc c'est une idée qui vient de là. Mais cette idée, elle est fausse pour deux raisons. La première raison, c'est que de tous les pays que le président Trump a pointé du doigt, les États-Unis sont plus riches que 95% d'entre eux. Donc en réalité, les États-Unis ont profité de cette mondialisation. Les plus grandes entreprises aujourd'hui, notamment dans les domaines les plus innovants, ce sont des entreprises américaines. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Prenez deux très grandes entreprises américaines dont on parle beaucoup. Apple et Tesla. Où sont les usines d'Apple et de Tesla? Elles sont en Chine et elles sont en Allemagne. C'est-à-dire deux pays qui sont dans le viseur de la politique commerciale du président Trump. C'est-à-dire que ce qui nous a été présenté là par le président Trump, c'est une politique qui va dégrader considérablement la compétitivité des entreprises américaines. Vous voyez, donc on est vraiment dans une politique qui est dangereuse. Edwige Chevrillon a mille fois raison. C'est une politique qui est très dangereuse pour la planète, mais qui est complètement irrationnelle pour les Américains.
Alors, attendez,
c'est leur problème, mais ça a des conséquences sur nous.
Pas si irrationnel que ça. Il faut quand même rappeler pourquoi Trump le fait. D'abord, c'est une promesse électorale qu'il a répétée mille fois. Mais il veut, en fermant l'Amérique au reste du monde, et c'est effectivement contraire à toute la mondialisation, c'est devenu l'Amérique citadelle assiégée, qu'est-ce qu'il veut? Recréer les emplois, faire revenir l'industrie aux États-Unis. On est fermé, c'est fort à la mot d'une certaine manière commerciale, mais pour créer des emplois, pour créer des usines et pour réduire les impôts des Américains. Oui, et c'est vrai que si quand ils s'attaquent aux autres qui font payer les Américains, l'Amérique reste le plus grand importateur mondial de la planète. Bon, c'est le plus grand importateur. Donc
c'est quand même un jeu dangereux auquel il est en train de jouer Donald Trump, parce que ce sont les consommateurs américains qui vont payer au bout du compte.
Mais il a une vision de l'économie qui date peut-être de son âge, mais qui est complètement dépassé aujourd'hui. C'est-à-dire que le plus grand importateur, mais de voitures, de biens, mais c'est quoi aujourd'hui les États-Unis? C'est Google, Microsoft, c'est Apple, c'est des services, c'est Netflix. Vous voyez, c'est les services qui pèsent très lourd dans l'économie américaine aujourd'hui. Et donc là, sa vision, elle est complètement dépassée de l'économie américaine.
Mais elle est complètement dépassée, mais est-ce qu'elle va faire mal aussi à l'économie américaine, à la consommation? Parce qu'encore une fois, c'est les consommateurs qui vont payer. Non, donc quand il dit je vais recréer l'âge d'or des États-Unis, je vais rendre l'Amérique riche à nouveau.
Parce qu'il espère que ça va faire venir aux États-Unis avec les taxes des milliards. Il a parlé de trillions de milliards de dollars de taxes qui vont rentrer dans les caisses américaines, ça va réduire la dette des États-Unis et ça va réduire au fond les impôts payés par les Américains. C'est ça sa stratégie. quel qu'en soit le coût. Et c'est vrai que c'est catastrophique et que c'est contraire à toutes les règles du libre-échange depuis Bretton Woods, mais c'est ce qu'il a décidé. C'est un révolutionnaire, brutal, disruptif, qui n'entend pas votre réalité, pas celle des économistes ou celle des autres pays. Mais c'est Trump. Trump est au pouvoir.
Mais ces impôts, ces taxes sont payés par les consommateurs américains. Donc il nous dit ça va réduire la dette des États-Unis. Oui, mais c'est payé par les consommateurs américains.
Oui, c'est
donc,
une vision court-termiste.
C'est un jeu à somme nulle. Le vrai sujet pour nous, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse très en profondeur, c'est que c'est une politique qui est délétère, en effet, sur le plan mondial, qui peut déclencher une récession mondiale. Donc ça, il faut s'y préparer, il faut renforcer nos entreprises, c'est très important.
Ça peut déclencher une récession mondiale, vous dites ?
Je pense que ça va déclencher une récession mondiale. Ben oui, parce que si le commerce se contracte entre tous les pays, vous allez avoir une récession. Donc c'est une politique qui est très dangereuse pour les États-Unis, mais qui est très dangereuse pour le monde entier. Et c'est ça, ce à quoi, notamment en France, en Europe et en France, on doit réfléchir très en profondeur. C'est-à-dire comment on arme nos entreprises par rapport à ce nouveau contexte.
Là, il y a une chose très importante. Quelle va être la riposte de l'Europe? Il faut que l'Europe réussisse à rester unie dans sa riposte. Éviter la division. Vous parliez de l'Italie, vous parliez de la Hongrie. Si l'Europe reste unie face à Trump, elle est forte. Mmh. Elle est économiquement puissante. Mmh. Et elle peut négocier d'égal à égal avec Trump. Sans brutalité, mais efficacement. Alors, est-ce que l'Europe en sera capable ? On verra dans les semaines qui viennent.
Et il y a effectivement deux stratégies possibles pour l'Europe, soit c'est œil pour œil, dent pour dent, ou soit au contraire, on essaie d'arrondir les angles. Je vais vous donner la parole dans un instant, Gabriel Picard, mais juste avant, j'aimerais qu'on aille aux États-Unis retrouver Benoît Ballet à Washington. Vous avez suivi avec nous ce discours de Donald Trump, ce révolutionnaire brutal, disruptif, comme le disait il y a un instant Ulysse Gosset, qui a donc dégainé le bazooka commercial.
Oui, parce qu'on parle effectivement de ces nouveaux droits de douane de 20% sur l'Union européenne, de 34% contre appliqués à la Chine. Il ne faut pas non plus oublier que le président américain a aussi annoncé une taxe douanière minimale de 10% dans le monde, de nouveaux droits de douane qui devraient entrer en vigueur dans quelques jours, entre le 5 et le 9 avril, d'après la Maison Blanche. Les pays étrangers vont enfin devoir payer pour avoir le privilège d'accéder au marché américain. Si vous ne voulez pas payer de droits de douane, construisez vos usines ici aux États-Unis. C'est ce qu'a expliqué le président américain Donald Trump, qui parle de ce jour, aujourd'hui, de ce mercredi, comme l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine, de la signature d'une déclaration d'indépendance économique. L'âge d'or américain est de retour, c'est ce qu'a assuré Donald Trump. Et puis, pour redonner un petit peu de contexte, d'après lui, et c'est ce qu'il croit, cette mesure doit permettre de récolter des milliards de dollars, d'après lui, qui serviront à réduire les impôts, alléger la dette nationale, redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Les emplois, les usines vont revenir, c'est ce qu'a assuré Donald Trump, qui dit vouloir protéger son pays. Il est temps, Donald Trump, qui tranche donc ce soir et qui sort effectivement le bazooka économique, comme vous l'avez dit.
Merci Benoît Ballet. On rappelle ces chiffres dégainés ce soir par Donald Trump. 10% de droits de douane pour tout le monde, ça c'est le seuil minimum. Et après, en fonction des pays, en fonction de votre classement, vous avez plus. L'Union européenne sera taxée à 20% sur tout. Ces produits, tous les produits venant de l'Union européenne. Gabriel Picard, sur les vins, sur les spiritueux, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de mesurer l'impact que ça aura sur votre secteur ?
Je vous l'ai dit, sur un marché, quand on augmente le prix d'1% sur un marché de grande consommation, on baisse en général les volumes d'environ 1%. Donc il faut qu'on
calcule. Vous attendez une baisse des volumes de 20%?
Sans doute de 20 ou un petit peu plus. Et il faudra voir comment, selon les entreprises et selon les structures de supply chain qui sont organisées, comment les choses s'articulent. Mais en tout cas, il y aura forcément une baisse des volumes. Et on a le souvenir des premières taxes Trump à l'époque du conflit Boeing-Airbus, qui était déjà de 25% dans le monde du vin. Donc c'est forcément, effectivement, une très mauvaise nouvelle pour notre activité aux États-Unis.
Et le marché américain, ça représente quoi pour les vins et spiritueux ?
Alors, pour les vins et spiritueux français, c'est à peu près 25% de l'exportation de nos vins et spiritueux.
C'est une part importante.
J'aimerais rappeler que les vins et spiritueux français, c'est le troisième excédent de la balance commerciale française. Il n'y a pas tant d'excédents dans cette balance commerciale française, malheureusement. C'est à peu près un peu plus de 14 milliards d'excédents, 14 milliards d'euros. Et 75% de cet excédent est fait hors d'Europe. Et 25% est fait aux États-Unis. Donc c'est effectivement notre premier client. J'aimerais juste préciser une petite chose par rapport au débat tout à l'heure. On s'est concentré sur les chiffres qu'a donné M. Trump. C'est des chiffres sur les biens. Donc c'est d'ailleurs les biens, les marchandises. Il n'a pas parlé des services. J'aimerais vous donner un chiffre très éclairant. En tout cas, c'est un éclairage. L'Europe un excédent commercial, je dis bien l'Europe, avec les États-Unis sur les biens de 150 milliards d'euros à peu près. L'excédent commercial des États-Unis sur l'Europe dans le domaine des services est de 100 milliards d'euros. Oui. Ça veut dire que si on regarde les biens et les services, on est à peu près équilibré sur quasiment 1600, 1700 milliards. Voilà. Donc, il y a
c'est
un
ce
vrai
que
sujet.
Disait Edwige tout à l'heure. Il a une vision du début du XXe siècle.
Il a une vision, voilà, vous avez raison,
des échanges.
Mais les services, c'est un enjeu économique, mais c'est un enjeu d'influence pour les États-Unis.
Nicolas Bouzou, ces droits de douane, ça veut dire concrètement que nos produits seront vendus plus cher sur le sol américain, donc potentiellement des clients qui vont s'en détourner et donc potentiellement un impact sur nos entreprises. On parlait des vins et spiritueux. Quels sont les autres secteurs qui pourraient le plus pâtir en France de l'augmentation de ces taxes?
Automobile, pharmacie, cosmétiques surtout. Mm-hmm. La France est un très gros exportateur de cosmétiques. Donc voilà, là, ce sont essentiellement ces secteurs-là
les médicaments.
Les médicaments, c'est plus lié aux déclarations de Kennedy, qui a dit
aussi
le fait qu'il est très anti-vax, etc. Du coup, ça a un impact énorme sur les labos, notamment sur Pfizer.
Oui, bien sûr. Mais tout ça n'est pas très clair, en réalité. D'autant plus que, quand on regarde un peu la façon dont Donald Trump utilise les droits de douane, là encore, c'est ce qui s'est passé avec le Canada et le Mexique, c'est-à-dire que ça lui sert à entrer dans une négociation, c'est-à-dire qu'à partir de demain, l'Union européenne va en effet proposer des mesures de rétorsion ou pas, et à partir de là, sans doute, quelque chose d'un peu nouveau va en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce chiffre de 20%, c'est celui qui est annoncé aujourd'hui. In fine, on n'est pas sûr que ce sera celui-là qui s'appliquera.
20%, d'ailleurs, pour l'Union européenne, il ne scinde pas le bloc européen. Il ne fait pas plus en fonction d'un pays ou d'un autre.
C'est à noter, parce que c'était un risque important. Et un des enjeux, et vous l'avez dit, c'est que l'Europe reste solidaire. Ouais. Et je pense que c'est un enjeu quasiment historique
comme
pour nous.
Comme tout le monde dit, le jeu est la même enseigne. Oui. Donc ça risque pas. Ou au contraire, c'est plutôt une chance. Ouais. Parce que l'Europe va rester sans doute unie parce qu'elle est confrontée aux mêmes sanctions. Il n'a pas fait ce qu'on redoutait.
Et sans doute que certains espéraient peut-être justement tirer leur épingle du jeu.
Exactement, les Allemands, par exemple. Les Allemands qui étaient touchés avec leur industrie automobile.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure, Edwige, on a assisté à une scène lunaire. C'était aussi le même constat qu'a pu faire Anna avec un Donald Trump qui a déployé cette espèce de graphique avec le classement des pays ou des groupements de pays et les sanctions, les bons et les mauvais points et les sanctions qu'il attribuerait en fonction. Je vous propose de le réécouter.
Le 2 avril 2025 sera marqué dans les annales comme le jour où l'industrie américaine est renaît de ses cendres, le jour où nous avons commencé à rendre l'Amérique riche à nouveau. Riche et bonne. Depuis des décennies, notre pays est pillé par des pays amis et ennemis. Parfois, les amis sont pires que les ennemis en ce qui concerne les échanges commerciaux. C'est pour cela que, dès minuit, nous allons imposer 25% de droits douaniers sur toutes les automobiles fabriquées à l'étranger.
Les amis sont pires que les ennemis, dit-il parfois dans les échanges commerciaux, disant l'Union européenne qu'elle est pathétique. On accueille Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir.
Je disais tout à l'heure, Donald Trump a dégainé le bazooka commercial. Ça va faire énormément de mal à l'économie mondiale, ces annonces ce soir.
On s'y attendait, le chiffre était prévu depuis un moment. Je pense que ce qui a été dit sur ce plateau, c'est-à-dire une vision du XXe siècle de l'économie et pas du tout une vision du XXIe siècle, c'est la caractéristique de Trump. Je ne veux pas dire qu'il est trop vieux puisque j'ai le même âge. Donc, je plaisante. Non, mais ce qui se passe ce soir est évidemment très, très inquiétant et très anxiogène.
Et très anxiogène. On va reprendre quand même les choses et une explication, une précision, peut-être Ulysse, puisqu'il dit les produits européens seront taxés à 20%, mais en même temps sur le secteur de l'automobile, il parle de taxes à 25% pour les voitures étrangères, avec effet immédiat là ce soir à minuit concernant le secteur de l'automobile. Que faut-il comprendre? On est sur du 20, du 25% pour les voitures?
Alors, pour les constructeurs automobiles et les pièces détachées, pas simplement les voitures finies, pour les pièces détachées, c'est 25% de taxes à partir de ce soir minuit.
Alors, je vous pose une question naïve, mais c'est 25% en plus des 20% qui ont été annoncés?
Non, c'est à côté. Et par ailleurs, tous les produits européens exportés vers les États-Unis seront taxés à 20%.
Et ça, à partir de quand?
Des avions ou médicaments. ce soir minuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de négociation et l'Europe va devoir réagir et elle a déjà envisagé un certain nombre de mesures. On parle du 12 avril pour l'annonce de ces mesures de représailles européennes. Il y a une bagarre au sein de l'Union européenne. Jusqu'à présent, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été très modérée en disant « on va voir, laissons Trump venir et puis on réagira ». Puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut agir tout de suite. Alors, on verra ce que ça donne. Mais ce qui est clair, c'est que pour le monde entier, Trump décide ce soir une taxe de toutes les importations aux États-Unis de 10%. Pour le monde entier.
Et puis il y a des... Et ensuite, il y a les bons et les mauvais élèves.
Alors, les pathétiques, c'est-à-dire les Européens,
nous, les Européens,
c'est 20%. Mais attendez, on n'est pas mal lotis d'une certaine manière. Puisque je vous donne 34% de taxes pour la Chine, 46% pour le Vietnam, 26% pour l'Inde. Bref, si vous voulez, il y a vraiment des pays qui vont beaucoup souffrir. C'est-à-dire que c'est un vrai tremblement de terre économique auquel nous assistons.
Non, mais surtout, ce qui est paradoxal, pour dire cette logique complètement folle, si vous me permettez cette expression en parlant du président américain, c'est que les plus grands marchés pour les entreprises américaines, c'est quoi? C'est la Chine, c'est l'Inde. Mmh. Surtout l'Inde qui est en train d'exploser. Et on est en train de mettre les droits de douane les plus élevés sur l'Inde. Donc c'est là où on s'est dit qu'on ne comprend pas du tout sa logique. Mmh. Sa logique, certes, c'est de faire que l'Amérique great again, il faut que l'Amérique retrouve son rêve, mais en même temps,
l'Amérique riche à nouveau, il promet un âge d'or américain.
Non, ça, oui, le rêve d'or américain, mais ça c'est pour
des mots,
son électorat.
Mais la question aussi, c'est de savoir comment l'opinion publique, comment le milieu économique américain
vont
réagir. Est-ce qu'il y a des cordes de rappel possibles?
Non, mais attendez. Les syndicats des travailleurs de l'automobile américaine sont 100% derrière Donald Trump.
Oui,
dans le public qui était à la Maison-Blanche dans le Rose Garden tout à l'heure, il y avait des hommes politiques de son bord, etc. Mais les ministres, mais il y avait des travailleurs, entre guillemets, de l'industrie automobile. Et eux, ils disent bravo Donald, parce que tu vas recréer des emplois aux États-Unis et les voitures étrangères vont être taxées. Mmh. Donc, on va acheter des voitures américaines.
Oui, mais
Mais alors attendez, juste sur le secteur de l'automobile, il annonce quand même deux choses. Il annonce des droits de douane à 25% pour tous les voitures étrangères et il annonce en revanche, il dit si vous achetez une voiture américaine, vous aurez un crédit d'impôt.
Oui, parce
donc il caresse dans le sens du poil le secteur automobile.
Il y a un vrai risque d'inflation, c'est-à-dire d'une augmentation du coût de la vie et du coût des voitures, même américaines, puisque les voitures américaines, comme le disait tout à l'heure Edwige, le monde est plat, si j'ose dire. C'est-à-dire que les pièces détachées, elles arrivent de partout. Donc, si elles sont taxées à 25%, et puis elles font des allers-retours, effectivement. Donc, on racontait qu'un boulon américain pouvait, un boulon sur une voiture américaine pouvait passer 8 fois la frontière avec le Mexique. Mm-hmm. C'est une image. Mais simplement, effectivement, toutes les pièces détachées, même pour les voitures américaines, vont être taxés. Donc forcément, les voitures américaines vont augmenter. Et ça, c'est pas bon pour le consommateur. Mais pour les ouvriers qui sont sur les chaînes automobiles, c'est bon. Et c'est ce qu'il leur a promis. C'est pour ça qu'il a été élu.
C'est bon à court terme. Alors,
c'est bon à court terme.
Dans les médias. Et n'oublions pas une autre chose, c'est que Trump, vous savez...
Avec l'inflation, c'est pas sûr que ce soit bon à court terme.
Non,
et puis le pouvoir d'achat des Américains...
Mais parce que Trump vous dira
ça
que c'est un mauvais moment à passer et que progressivement, l'inflation va être réduite. Et n'oubliez pas que cette année, vous paierez moins d'impôts, dit-il aux Américains.
Oui, c'est ça.
Jamais une politique protectionniste dans l'histoire, jamais n'a fonctionné.
Ouais.
Ça n'a jamais fonctionné. Ça ne fonctionnera pas. Si ça fonctionnait, d'autres pays l'auraient fait avant.
Oui, c'est pour cela qu'il est disruptif et qu'il est, il est dans un cycle, si vous voulez, complètement que nous avons du mal à comprendre parce qu'il est irrationnel.
Oui.
Mais à la Maison Blanche. Son conseiller pour les affaires économiques et le protectionniste en chef. Et c'est lui qui influence Donald Trump. Il a théorisé. C'est que c'est pas, vous dites ça marche jamais, mais eux, ils sont convaincus du contraire. Ou en tout cas, ils essaient de nous prouver le contraire.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on est dans deux mondes. Je parlais ce matin avec un dirigeant français qui me disait, on est sur deux planètes différentes.
Oui, c'est
il y a celle de Trump et de l'économiste en chef, qui est le protectionniste en chef.
Ouais.
Et il y a le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde du libre-échange, qu'il est en train de bousculer.
J'aimerais qu'on parle de la riposte européenne, parce que il va y avoir, on l'a dit, des conséquences sur nos entreprises françaises qui exportent aux États-Unis. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour nous, Français? Tout dépendra, Bruno, de la stratégie que va adopter l'Europe. Il y a deux possibilités. Il y a le bâton ou la carotte, réaction offensive de l'Europe ou au contraire, est-ce qu'on va essayer d'arrondir les angles? Et là, il va falloir tous se mettre d'accord pour avoir une réponse commune.
Bon, elle n'est pas totalement ajustée, la riposte, mais c'est clair que la chance peut-être des Européens, c'est qu'il a fait un paquet commun. Là.
Ouais.
Il n'a pas cherché à séparer les pays et du coup, ça nous condamne.
À nous mettre d'accord.
En tous les cas, à rester ensemble et à avoir une riposte commune. Donc, j'allais dire, c'est peut-être la chance des Européens. On ne va pas chercher à avoir un peu plus ou un peu moins de taxes douanières.
Comme ça s'était passé en 2018.
On est tous lotis à la même enseigne. Donc, c'est la chance un peu de l'Europe. Maintenant, c'est un peu au chef d'État de se mettre d'accord. Et pour le coup, ceux qui pensaient s'en sortir...
Est-ce que Bruno, est-ce qu'il risque pas, maintenant qu'il a décidé ce taux à 20%, ensuite d'essayer dans l'Europe de se faire des amis et de faire des taux différentiels, parce que je pense qu'il va essayer de nous diviser. Oui, ça, c'est la stratégie de Trump. Mmh. Il va dire à Orban et à Mélanie, vous êtes vraiment des types tout à fait gentils. Mais aider.
Dans un premier temps, on peut au moins jouer groupé.
Jouer groupé avec encore une fois cette stratégie, elle est très importante parce qu'elle aura un impact sur nous consommateurs. Il y a parmi les pistes qui sont évoquées, on dit notamment qu'on pourrait faire pression sur les GAFAM, les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain le consommateur français, il pourrait payer plus cher son abonnement Amazon, il pourrait payer plus cher ses produits Apple.
Oui, on peut mettre davantage de contraintes réglementaires. Mais je veux dire pourquoi je suis complètement opposé à la stratégie œil pour œil, dent pour dent. Les Américains mènent une politique imbécile pour les États-Unis et pour les autres, mais pour les États-Unis. Je déconseille à l'Europe de mener une politique imbécile pour l'Europe. Si on met des droits de douane qui sont l'équivalent, ça veut dire que les consommateurs européens vont payer ce qui vient des États-Unis. Mais je veux dire, dans beaucoup de choses de ce que vous achetez, il y a des composants qui sont fabriqués aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on va faire payer le consommateur européen. Ça veut dire qu'on va dégrader son pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il faut des réponses, et je crois que c'est ce que veut faire l'Union européenne, qui me paraît plutôt intelligent, de faire des réponses graduées, ciblées.
Suivant les séquences. C'est-à-dire
viser les GAFA. Pour ne pas irriter Trump non plus.
Mais c'est-à-dire quelles pourraient être les réponses graduées, ciblées?
Par exemple. Par exemple, en 2018, on avait visé les Harley Davidson, par exemple.
Vous voyez, et le Bourbon.
Donc on vise que certains produits. Oui, enfin,
exactement.
Non, mais attendez, l'idée est juste sur le Bourbon et Harley Davidson.
Services. La finance,
mais pour l'instant, on en parle
le voyage, les médicaments, c'est ça. Et puis, ça va avoir des effets quand même.
Mais ça se traduirait comment, concrètement?
Alors, je demande aux économistes. Allez-y.
Sur les services.
Non mais attendez, le problème, je comprends bien l'argument. On a envie évidemment de mettre en place des représailles très fortes. Je comprends parfaitement ça.
C'est la seule chose que Trump comprend.
Oui, mais le problème, c'est que ça va se retourner contre le consommateur européen et contre. Regardez ce qu'ont fait les Chinois en 2018. Les Chinois, c'est pas des naïfs. Bon, eux en fait, quand il y a des droits de douane qui sont imposés par les Américains, ce qui est le cas là, ils répondent, mais toujours un peu en dessous. C'est-à-dire une vraie réponse, mais qui est pas trop pénalisante pour eux. Ouais.
Mais alors, c'est-à-dire quoi? On s'écrase?
Non, mais attendez, c'est pas on s'écrase, on fait des choses qui sont intelligentes pour nous. Alors, on a suffisamment de problèmes en ce moment, j'ai pas envie de ruiner le consommateur européen.
Donnez-nous des exemples. Parce que vous dites tout à l'heure, le Bourbon, les Harley Davidson, donc c'est-à-dire quoi? Cibler les produits des États républicains?
Alors, exactement. Par exemple,
ce serait suffisant.
C'est une très bonne idée. Si vous voulez aller plus loin, les produits que les Européens, que les Américains taxent à 20%, on peut, nous, par quasi-réciprocité, les taxer, non pas à 20%, mais à 10%, par exemple. Si on rentre tous dans une guerre commerciale, mais c'est la récession et l'explosion de la pauvreté assurée pour tout le monde.
Edwige?
Non, c'est juste sur les services financiers, sur la finance, sur les banques. Là, on doit pouvoir jouer, parce que vous voyez, il y a une grande partie de l'épargne européenne. Vous savez, en épargne, le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé en France et en Europe. Et une grande partie de cette épargne part justement financer l'économie américaine. Et là, justement, un des objectifs est de dire non. Il faut que ça finance l'économie européenne.
Le coup de massue de Donald Trump, coup de massue sur l'économie mondiale, on va aller réécouter le président américain.
Je vais signer un décret historique qui va établir des droits de douane réciproques avec tous les pays dans le monde, c'est-à-dire que ce qu'ils font pour nous, nous le ferons pour eux. C'est réciproque. Il s'agit d'un des jours les plus importants, à mon avis, dans l'histoire américaine. C'est la déclaration d'indépendance économique. Depuis des années, les citoyens américains, les travailleurs devaient voir d'autres nations s'enrichir et devenir plus puissantes. Nous allons enfin pouvoir rendre l'Amérique grande à nouveau, plus grande qu'elle ne l'a jamais été.
Ça avait bien marché.
Ça fait forcément débat en plateau. Anna, est-ce que l'Europe doit résister à la tentation d'une guerre commerciale?
Mais en fait,
qui pourrait faire monter encore une fois les prix pour le consommateur.
Oui, la question, c'est que la guerre commerciale, c'est perdant-perdant. Le sujet, c'est qu'au fond, l'Europe et la France là-dedans se retrouvent dans un étau parce qu'on ne peut pas ne pas riposter. Il faut réagir, il faut montrer les muscles. En plus, on connaît le goût qu'a le président Emmanuel Macron pour créer un rapport de force, notamment avec Donald Trump. Donc, il y aura dans cette équation la volonté d'Emmanuel Macron qui va essayer aussi d'être le leader d'une Europe qui réplique et qui riposte, mais en même temps, on ne peut pas aller au bout de la guerre. C'est-à-dire que cette...
Oui, mais Anna, il y a quand même une chose, c'est que l'économie européenne qui sera la plus impactée, c'est l'économie allemande, étant donné sa structure économique. Donc, on va trouver quand même un attelage franco-allemand dans cette réponse aux États-Unis qui va être quand même assez solide, assez charpenté. Là, il y a une bonne colonne vertébrale à la réponse aux Américains.
Vous demandiez tout à l'heure quelle est la réaction des Américains. Les démocrates américains, qui sont les adversaires de Trump, qui ont perdu la dernière présidentielle, disent ceci à propos des mesures de Donald Trump. C'est absurde, c'est fou, c'est chaotique, c'est la guerre commerciale. Et nous allons nous battre contre ces mesures absurdes. C'est dire qu'aux États-Unis aussi, il y a une prise de conscience des effets néfastes des mesures de Trump sur, finalement, l'Amérique des classes moyennes, qui va payer le prix fort sur les achats de voitures, sur les achats de biens venant de l'étranger, les téléphones, etc. Donc, il y a aussi, aux États-Unis, des gens qui s'interrogent sur où va l'Amérique. Et le problème, si vous voulez, c'est que on a beau dire, mais personne ne le sait. C'est-à-dire que Trump est totalement imprévisible et il agit en fonction de son instinct. Et son instinct le guide à faire une guerre commerciale pour dire aux Américains, je vous avais promis que ça allait changer, eh bien ça va changer. Et il y a des conseillers de Trump qui vous disent ouvertement, on va provoquer certainement une situation un peu chaotique, on va tout détruire, mais c'est pour mieux reconstruire l'Amérique d'après.
Schumpeter.
Et c'est Schumpeter. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a admis ça, c'est-à-dire que effectivement, il n'y a pas de limite à l'absurdité ou au chaos, eh bien, on a compris où va l'Amérique, où l'Amérique nous emmène. Le problème, c'est que comme on n'est pas dans un monde comme auparavant au 19e siècle, le monde est un monde où il y a quand même des échanges partout, très ouvert. Eh bien, ce qui se passe aux États-Unis a forcément des répercussions partout. Et même si les Chinois sont raisonnables dans leur riposte, ils vont devoir riposter. Oui, et les Européens ne peuvent pas réagir non plus.
Mais bien sûr, c'est un séisme mondial et on commence à avoir des réactions des pays qui sont touchés par ces droits de douane. Enfin, tous les pays sont touchés à 10%, mais avec certains qui sont davantage impactés que d'autres. L'Australie, par exemple, qui réagit, les droits de douane américains sont totalement injustifiés. Et on a Londres, réaction de Londres, qui dit vouloir un accord avec les États-Unis, mais qui annonce pas de riposte immédiate. Donc, il ne veut pas s'embarquer dans cette guerre.
Mais parce qu'ils étaient déjà en train de négocier un accord économique et qu'ils n'ont que 10%.
Oui, alors eux, ils font partie des bons élèves. Ils ne sont pas pathétiques comme les autres. La très grande difficulté,
parce que c'est pas un sujet facile, et d'ailleurs, au passage, on aurait pu s'y préparer, parce que tout ça a été annoncé pendant la campagne électorale, et on a fait de la morale pendant 6 mois pendant la campagne électorale, sans réfléchir aux impacts de ce type de politique parfaitement prévisible.
Oui, ça fait des mois qu'ils l'annoncent.
Et parfaitement annoncé. Mais la très grande difficulté, c'est qu'en effet, il faut répondre quelque chose, parce qu'on est dans un rapport de force.
Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre?
Il faut répondre quelque chose. Il faut répondre quelque chose qui ne nous pénalise pas.
Alors que faut-il faire?
Eh bien, c'est pour ça que. Allez, je vous donne un autre exemple. Oui. Les Canadiens, eux, le gouverneur de l'Ontario a dit, nous, on va couper les exportations d'électricité aux États-Unis. Voilà. C'est donc des mesures ciblées, spectaculaires, qui vont toucher l'amour propre du président Trump. Je pense que c'est
ce. Il faut toucher l'amour propre de Trump.
Écoutez, vous avez quelqu'un qui n'est pas rationnel.
Le levier.
Si on avait quelqu'un de rationnel, la vie serait facile. Ce n'est visiblement pas le cas.
Ça se voit dans l'industrie de défense, déjà. Vous savez, on achetait des armes. C'était tout le problème européen, c'est qu'on achète essentiellement des armes américaines. Oui. Et ben, ça y est, ça commence. C'est-à-dire qu'on voit des gens. On voit, c'est un exemple. On voit déjà, même les Canadiens qui commencent à dire, on va regarder. On va regarder qu'est-ce qu'on peut acheter du côté de l'industrie défense européenne. On a vu les Danois, vous savez que le roi du Danemark était en visite ici à Paris, il a acheté français. Oui. On voit les Australiens
les
aussi.
Les Portugais, les Belges.
Les Portugais. Vous voyez,
si tous les Européens disent on annule on annule les commandes de F-35, je peux vous dire que...
Oui, mais là, c'est du rêve, soyons réalistes.
Mais ça
serait une riposte formidable pour l'Europe, mais elle est impossible, parce que d'abord...
D'abord, faut les fabriquer, les avions.
Exactement.
On fabrique 3 par mois.
Dassault qui fabrique 3 à 4
avions
Rafale par mois, qui va aller à 5 l'année prochaine. Il peut pas fournir les Polonais, les Suédois et autres. Donc, si vous voulez, oui, il pourrait y avoir un avion européen, mais ça va prendre au moins 10 ou 15 ans.
Je vous lis.
À remplacer les achats d'armes américaines en Europe.
Je vous lis d'autres réactions des secteurs qui sont impactés, notamment l'industrie chimique allemande, dont les États-Unis sont le premier marché d'exportation et qui dit attention, gardons la tête froide, évitons absolument l'escalade. Donc, même les secteurs impactés.
Vous ont écouté.
Vous ont écouté. Mais visiblement, vous avez un impact jusqu'en Allemagne.
J'adorerais. Non, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut éviter cette guerre commerciale, cette montée du protectionnisme. Je suis pas d'un naturel anxieux, franchement. Mais si vous refaites un peu la séquence des années 20, des années 30, c'est ce qui s'est produit, cette guerre commerciale, cette montée protectionniste, et ça aboutit à la crise économique la plus grave du siècle. Donc il faut faire très attention à ça, et les chimistes allemands, ça ne m'étonne pas d'eux, m'ont l'air tout à fait raisonnables.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation où il faut opposer aux outrances de Donald Trump une forme de sang-froid et de raison raisonnable. Et vous conviendrez que c'est assez difficile. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il électrise le système, il est méthodiquement dans la destruction de l'ordre mondial, c'est-à-dire que ce soit l'ordre diplomatique et maintenant l'ordre économique mondial. Et en face de ça, eh bien, tout le monde est obligé d'accuser le coup, d'essayer de parer les coups, néanmoins de ne pas avoir l'air de procéder.
D'autant plus
c'est vraiment compliqué.
Il faut rappeler une chose, c'est que on est en pleine négociation avec l'Amérique de Trump sur l'Ukraine. Et pour essayer d'avoir un accord sur une paix robuste et solide, comme disent les diplomates, en Ukraine, ça ne peut pas se faire sans un accord avec l'Amérique de Trump. Donc si on se fâche tout rouge avec Donald sur les questions commerciales, comment après on va pouvoir négocier avec lui pour forcer Poutine, par exemple, à signer un cessez-le-feu. Donc, vous voyez, il y a ce contexte géopolitique. Mais il y a ce contexte géopolitique qui
on
est absolument...
On ne peut pas braquer complètement Donald Trump, même s'il nous lance même s'il sort le bazooka commercial, il faut quand même qu'on reste...
Exactement. Et vous savez que l'un des enjeux, l'un des enjeux actuels, c'est évidemment éventuellement un cessez-le-feu en Ukraine, mais c'est aussi, y aura-t-il une intervention israélienne contre l'Iran pour détruire l'armement nucléaire iranien qui est en construction? Donald Trump est en train de donner à Israël un certain nombre de moyens pour le faire. Donc, vous voyez, il y a tout ce contexte global qui est extrêmement préoccupant et la guerre commerciale qui s'annonce, s'il faut la traiter avec sagesse et modération, oui, c'est d'ailleurs ce que a fait la présidente de la Commission européenne jusqu'à présent. Elle a évité de mettre de l'huile sur le feu jusqu'à présent. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas ne pas réagir.
Elle a fait une proposition, d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, elle dit, on va offrir à Donald Trump d'importer plus de gaz naturel liquéfié pour essayer justement de l'amadouer. Est-ce que ça peut être un levier?
Est-ce qu'il faut aller sur terrain? Donald Trump l'a dit lui-même qu'il voulait apporter plus de gaz naturel liquéfié en Europe. Mais c'est pas.
Mais est-ce que ça pourrait le faire revenir? En gros, est-ce qu'il faut lui faire des cadeaux pour le faire revenir en arrière? Bon, c'est ça la question.
Moi, je ne pense pas parce qu'en même temps, il connaît que les rapports de force. Donc, il faut se mettre. Ouais. C'est pas forcément œil pour œil, dent pour dent. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui ne comprend que le langage de la force.
Donc une riposte graduée.
Il faut une riposte graduée. Voilà, comme l'a dit Christine
Lagarde. Le langage de la force et de la considération qu'on lui porte. Il y a deux choses qui font marcher Donald Trump.
on sait qu'il est extrêmement imprévisible, Donald Trump. Est-ce que aussi il faut se dire, est-ce que ça peut être une stratégie de se dire, on fait le dos rond pour l'instant, on le laisse avec son Liberation Day faire son show un peu protectionniste, on attend que ça se calme, que ça redescende, et puis dans quelques mois, on réentamera des discussions avec lui, on pourra faire bouger les choses.
Oui, ça me semble pas complètement idiot. Ça me semble pas complètement stupide parce que, en effet, il peut y avoir une pression qui vient de l'intérieur. C'était très, évidemment, important ce que disait Ulysse Gosset sur la réaction des démocrates. Mais il me semble que, vous savez, dans certains, ces fameux town halls, là, les hôtels de ville où les parlementaires américains reçoivent les Américains. Il me semble que certains parlementaires républicains commencent justement à avoir en face d'eux des électeurs qui s'inquiètent de ces sujets-là. Donc peut-être que la pression anti-protectionniste, elle peut aussi venir de l'intérieur.
Mais il y a aussi la bourse. Ça va avoir un effet catastrophique pour les consommateurs américains, pour l'économie mondiale. Vous fixez un peu à partir de quel délai on va voir ce que vous nous annoncez se profiler et faire changer les opinions publiques. C'est quoi l'échelle du temps?
Ça peut être assez rapide parce qu'en fait l'exécution de ces politiques va être très rapide puisque ça se joue en quelques heures.
Avant la fin 2025, on devrait pouvoir faire un bilan de ces affaires-là.
Là, ce qui s'est passé quand on regarde les choses très précisément, c'est que vous avez eu énormément de mouvements commerciaux dans le monde là. Pour éviter ces droits de douane. C'est-à-dire que vous avez eu, par exemple, énormément de livraisons d'alcool aux États-Unis pour que ça se fasse avant l'instauration des droits de douane. Donc, du coup, les prix vont pas augmenter tout de suite parce que il y a des stocks importants de tout un tas de choses. Mais ça va, dans quelques mois, je pense que ça va se voir.
Et si, faisons de la politique fiction, Ulysse, les Républicains perdent les élections de mid-term, ça va venir très vite. Qu'est-ce qui peut se passer sur le plan politique? Est-ce qu'on peut revenir brutalement à la situation ex-ante ou est-ce que finalement on est rentré dans une souricière dont on ne va pas pouvoir sortir?
Alors malheureusement, les démocrates sont aussi protectionnistes, si ce n'est plus que les républicains. Alors certainement moins.
C'est bien ce que j'avais cru.
Moins que Donald Trump,
quand même pas comme ça.
Mais c'est ça, moins radicaux, moins brutaux, moins disruptifs. Mais l'Amérique est en train de se replier sur elle-même et elle le fait depuis Barack Obama.
Ouais.
Elle l'a fait avec.
Elle se tourne vers d'autres.
Avec Joe Biden aussi, malgré tout. Non, mais là vous avez parfaitement raison. C'est que, à mon avis, la seule riposte, elle ne peut venir que de l'intérieur des États-Unis. On ne changera pas Donald Trump ni son équipe qui dispose actuellement quasiment des pleins pouvoirs. Les seuls qui peuvent orienter la politique américaine différemment, pas forcément pour empêcher le droit de douane, mais pour que le pays reprenne un cours, je dirais, plus raisonnable, ce sont les prochaines élections de mi-mandat. On appelle ça les élections de mid-term. Et effectivement, les sondages ne sont pas très bons pour les républicains. Mais est-ce que ça va tout changer? Pas forcément. D'abord, ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est là-dessus que misent les démocrates. Et effectivement, ça va être extrêmement important de voir si on est 2024, l'élection présidentielle, 2 ans après les midterms, c'est là où effectivement on va voir si l'Amérique réagit et est capable ou pas d'opposer une forme
sanctionner
de Donald Trump.
Il y a un chiffre, il y a des estimations qui avaient été faites par des économistes avant les annonces de Donald Trump, anticipant justement ces droits de douane, et ils disaient que ça pourrait coûter jusqu'à 600 milliards de dollars aux États-Unis.
L'intérêt des prévisions économistes, c'est de rendre légitime l'astrologie.
Oui, mais bon, quoi qu'il arrive, ça signifie quand même que ça a un impact qui sera considérable aussi pour les Américains, pour le consommateur américain.
Ça, c'est pas de la prévision. Si vous taxez tous les biens qui rentrent à 20%, ça fait forcément des augmentations de prix importantes.
Donc ce chiffre de 600 milliards de dollars...
Oui, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure pour justifier l'augmentation des droits de douane en disant ça va faire rentrer dans les caisses américaine, 600 milliards de dollars. Juste un point pour montrer que ça peut aller assez vite pour répondre à Roselyne Bachelot. Vous prenez l'exemple d'Elon Musk, de Tesla. Oui. Vous avez vu les ventes de Tesla qui se sont effondrées en France, en Europe, etc. Mais aussi aux États-Unis. Les ventes de Tesla, c'est moins 13%. Là, les chiffres sont tombés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des actionnaires qui disent, attendez, le dommage vis-à-vis de la marque Tesla est presque irréparable à cause de l'image désastreuse d'Elon Musk. Donc, on voit bien que Tesla est en train de souffrir. Elon Musk qui pourrait quitter, on va rester prudent.
D'ailleurs, l'action a bondi aujourd'hui avec ces rumeurs de départ de Donald Trump de la maison
d'Orange. Vous voyez, la réaction, elle peut être assez rapide.
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Effectivement, il y a une rumeur sur le départ de Donald Trump. C'est le site Politico qui avait
Elon Musk.
Le départ de Donald Trump,
ça, c'est
pas tout de suite.
Donald Trump, pour l'instant, Périne, c'est pas...
On est encore sous le choc du bazooka commercial.
Donald Musk et Elon Trump.
Voilà, c'est un peu ça. On a eu le site Politico qui a affirmé aujourd'hui qu'Elon Musk pourrait quitter l'administration Trump. Ça a été démenti ensuite par la Maison Blanche, mais dans un poste assez ambigu.
Oui, ce qu'a dit le site Politico, qui est extrêmement bien informé, c'est qu'effectivement, Elon Musk pourrait quitter son poste, qui était
le Doge,
celui du Doge, qu'on appelle le Doge, c'est-à-dire c'est réduire considérablement le nombre de fonctionnaires. Trump lui a dit il y a quelques temps, il faut arrêter la hache, il faut y aller avec le scalpel. Parce qu'effectivement, ça commençait à faire beaucoup, beaucoup de mal aux fonctionnaires américains.
Il n'était pas là, on l'a pas vu en tous les cas.
Et donc, alors, il n'était pas là ce soir. Et donc, Politico a dit que selon des sources à l'intérieur de la Maison Blanche, Trump avait décidé de s'en séparer. En ajoutant que c'est pas parce qu'il perdait ce job-là qu'il restait loin de la Maison Blanche. Il resterait un conseiller et un ami proche. Puisque Trump, vous savez, a dit un jour, Elon Musk, c'est un génie. Il y en a pas beaucoup. Il faut le garder. Et il a besoin de Musk pour poursuivre sur cette lancée qui est la sienne. Donc peut-être qu'il va effectivement quitter ce job, mais pour une raison peut-être moins politique qu'économique, parce que comme le disait Edwige très justement, les affaires de Musk vont très mal. Les ventes de Tesla s'effondrent aux États-Unis, mais surtout en Europe, en Chine et partout dans le monde. Donc ça commence à faire beaucoup. La faute d'Elon Musk est en train de se réduire comme peau de chagrin. X, Twitter ne marche pas non plus. Donc Elon Musk a besoin de revenir aux affaires pour essayer de redresser la barre. C'est l'une des raisons de son départ. Et Trump a dit lui-même, il veut partir, je vais l'en empêcher, je veux qu'il reste au maximum. Alors que va-t-il se passer? Aujourd'hui, la Maison-Blanche a démenti qu'il était limogé, ça c'est pour...
Jusqu'à la fin de sa mission.
Jusqu'à la fin de sa mission. Sa mission est prévue pour 130 jours, un peu plus de 4 mois. On est à la moitié de sa mission. Pourquoi 130 jours? Parce qu'il y a une petite règle aux États-Unis qui dit que pendant 130 jours, même si vous avez été un businessman et que vous entrez au gouvernement, vous pouvez le faire sans être accusé de conflit d'intérêts.
On va le rapporter là.
Ça dure 130 jours. Voilà. Et donc, il pourrait rester jusqu'à la fin. Et Trump a dit, il restera jusqu'à ce que son job soit terminé. Donc, à quel moment considère-t-il que l'État fédéral aura été réformé suffisamment? Et c'est la question qui est posée aujourd'hui.
Et les coupes d'Elon Musk dans les dépenses publiques, ils font aussi planer beaucoup d'incertitudes sur l'économie américaine. On va y aller justement aux États-Unis. On va vous retrouver, Benoît Ballet, en direct de Washington, où Donald Trump a donc prononcé cette déclaration de guerre commerciale tout à l'heure, avec un coup de massue pour le commerce mondial.
Oui, et Donald Trump qui vient dans la foulée de déclarer un état d'urgence économique, ce qui va lui permettre effectivement de mettre en œuvre, d'instaurer véritablement ces droits de douane qui vont donc entrer en vigueur dans deux temps. Le 5 avril d'abord, dimanche prochain, pour, vous savez, ce droit de douane minimaux de 10% dans le monde. Et puis ensuite, ce sera le 9 avril, mercredi prochain, dans une semaine. C'est là que, notamment en ce qui concerne l'Union européenne, les 20% de droits de douane sur l'Union européenne entreront en vigueur sur tous les produits européens. Donald Trump, il est sur une opération très risquée, hein, sans revenir sur le détail des annonces que vous venez d'évoquer. Il faut se rendre compte qu'à la Maison-Blanche, il y avait énormément de caméras autour de lui, qu'il filmait, des caméras des journalistes, mais aussi des caméras, des appareils photo de la Maison-Blanche, de ses équipes. Ça veut dire que pour la Maison-Blanche, ce moment va être très important. C'est un moment charnière dans, quelque part, la politique intérieure de Donald Trump. Essayer d'utiliser ce moment à des fins politiques. Sauf que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, si ça ne rapporte pas suffisamment d'argent, si l'inflation ne baisse pas, s'il n'y a pas davantage d'usines qui reviennent aux États-Unis comme l'aimerait Donald Trump, si les créations d'emplois ne progressent pas, les Américains sauront à qui s'en prendre. Et là, il y aura vraiment une annonce où l'on verra que ça n'a pas marché. En revanche, si effectivement ça fonctionne, le pari sera réussi. Mais c'est un pari extrêmement risqué dans lequel vient de se lancer Donald Trump ce soir.
Merci beaucoup de Benoît Ballet. Un pari risqué pour les États-Unis, avec des conséquences pour le monde entier, pour nos entreprises françaises et peut-être pour nous, consommateurs français, en fonction de la riposte qui sera décidée par l'Union européenne. Alors que les réactions, Bruno, sont en train de tomber les unes après les autres, l'Italie, à l'instant, Giorgia Meloni qui réagit, les droits de douane américains sont une mauvaise mesure et pour cause, mais elle ne dit pas pour l'heure quelle sera la stratégie à adopter pour l'Union européenne pour répondre à cette guerre commerciale.
C'est mesuré comme réaction. On voit que Giorgia Meloni ménage un peu l'avenir. C'est une mauvaise mesure. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de réaction du côté de l'Élysée, du président français.
Premier ministre irlandais qui a réagi également, qui dit que la réaction de l'Union européenne devrait être proportionnée. C'est ce qu'il a dit il y a quelques minutes.
Il
n'y a
pas intérêt à l'Irlande. Il fabrique
Et
ils hébergent plusieurs sièges de GAFA.
Elle a dit qu'il faut éviter une guerre commerciale pour ne pas pénaliser les consommateurs européens. Et donc, il faut une mesure, effectivement, il faut réfléchir. D'ailleurs, elle va à Bruxelles demain pour en parler, et il y aura d'autres rencontres à Bruxelles, pour trouver la bonne riposte. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ne pas se laisser faire, mais en même temps ne pas mettre de l'huile sur le feu.
Mais il y a quand même aussi des opinions publiques à qui il va falloir expliquer les choses. Parce que les opinions publiques qui écoutent ça ce soir, elles n'ont qu'une idée, c'est de baffer les Américains. Les tentatives isolationnistes, elles parcourent le monde entier. Ce que fait Trump, finalement, il y a beaucoup de chambres d'écho en Europe. Et ça va être compliqué pour les leaders européens. européens d'expliquer qu'on protège les Français ou les Européens globalement en ayant des politiques raisonnables.
Il y a une chose qui est très importante pour l'Europe, c'est la question du dollar. Edwige en a parlé tout à l'heure, le dollar baisse. C'est ce que veut Donald Trump pour rendre les produits américains moins chers. Mais si le dollar baisse, l'euro monte. Et pour nous, c'est évidemment un inconvénient.
Donc ça a des répercussions. Si le dollar baisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que s'ils veulent acheter des produits, eh ben, ça leur coûtera plus cher. Donc ça aura aussi un effet inflationniste qui ne sera pas forcément positif pour le consommateur américain.
Oui, mais face à la Chine,
face à l'Inde.
Et pour
nous qui achetons beaucoup d'énergie et le fameux gaz liquéfié américain, si l'euro monte, eh ben, la facture énergétique sera moins lourde.
C'est vrai.
Bonsoir Nicolas Conquer, vous êtes porte-parole des Républicains Overseas. Donald Trump a donc dit ce soir, voilà, on a été pillés depuis des années et des années par des pays, y compris nos pays amis qui sont parfois pires que les ennemis en termes d'échanges commerciaux. Il nous impose donc 10% pour tous les pays minimum de droits de douane et pour l'Union européenne 20%. Il l'a justifié avec un tableau. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer parce qu'on n'a pas bien compris en plateau d'où il sortait ce chiffre. Il nous dit voilà, l'Union européenne taxe les produits américains à 39%, donc nous on va taxer les produits européens à 20%. On est en plateau avec Nicolas Bouzou qui est économiste et qui nous dit c'est 39%, aucune idée d'où ça sort, parce qu'en réalité, on taxe, vous disiez Nicolas Bouzou, à quelques pourcents les produits américains. Ça vient d'où ce chiffre ?
Eh bien, bonsoir. Tout d'abord, il faut rappeler que c'est une forme de réciprocité à laquelle appelle Donald Trump pour s'assurer à ce que les échanges américains soient pas pénalisés au profit d'intérêts européens ou d'autres régions du monde. Le tableau qui a été présenté lors de cette Liberation Day indique des taux qui tiennent compte donc tant des impôts douaniers, mais également des mesures non tarifaires qui sont effectivement la TVA qui vient s'appliquer donc aux importations américaines, alors que les voitures européennes qui sont exportées vers les États-Unis, elles, ne sont pas sujettes à une taxe sur la valeur ajoutée. Donc ça crée un déséquilibre, un désavantage, et ça vient favoriser les exportations européennes ou asiatiques.
Attendez, s'il met la TVA dedans, il a quand même une vision très, très particulière de la réciprocité, excusez-moi, mais...
Non, en fait, je vais vous dire très clairement, il n'y a pas de TVA aux États-Unis, donc ça, en soi, c'est une itération très littérale de la réciprocité. Donc après, vous pouvez la contester, mais en tout cas, c'est ça ce qui va venir justifier. Après, effectivement, là, il faudra voir en quoi ils ont basé leurs chiffres. En principe, on s'appuie sur un tarif moyen pondéré des impôts douaniers, qui est aussi plutôt entre 1,6 et 1,7%. Là, de fait, ce qui est important de regarder, c'est pas tant comment ont été imposés les États-Unis, mais ce qu'ils souhaitent imposer à ces différents marchés. En l'occurrence, vous voyez qu'on ne parle pas de la France, on parle de l'Union européenne dans une totalité. Donc, il va falloir savoir comment est-ce qu'on arrive à défendre nos intérêts en tant qu'Européens. L'enjeu, c'est surtout de dire que c'est un plafond, c'est capé. Il n'y aura pas au-dessus. L'enjeu est de voir c'est comment est-ce qu'on peut arriver à rabaisser ce niveau. Et ça passe par un abaissement des propres tarifs douaniers qu'on a en Europe. Et c'est l'exemple qu'ont suivi des pays comme le Canada, le Mexique, l'Israël ou même l'Inde dans une certaine mesure, et qui ferait bien nous inspirer de manière à ce qu'on puisse être aussi compétitif sans
mais d'accord, mais bon, il faut quand même repartir de la base et ce fameux chiffre de 39%, Nicolas Bouzon.
Alors déjà, je conteste absolument que la TVA soit une barrière douanière. On pourrait en discuter, mais c'est tout à fait contestable. Mais de toute façon, même si vous ajoutez la TVA et nos droits de douane, vous n'arrivez pas à ce chiffre de 39 ou 40%. Donc c'est bien qu'il y a d'autres choses.
Donc c'est un chiffre farfelu.
Moi, il me semble farfelu. Enfin, on va voir. Il y a des gens qui vont travailler là-dessus ces prochains jours. Mais en effet, on comprend pas d'où ça vient. Et voilà. Quant à l'idée, alors pardonnez-moi, mais c'est vrai que je suis peut-être parfois un peu psychorigide, mais l'idée qui consiste à dire on va avoir cette politique de guerre commerciale va permettre d'abaisser les tarifs douaniers. Là, j'avoue que je veux bien faire toutes les circonvolutions intellectuelles que vous souhaitez. Mais là, j'ai vraiment du mal à suivre, même avec la meilleure volonté du monde. Parce que ce à quoi mène inévitablement ce type de politique, c'est malheureusement une augmentation des tarifs douaniers un peu partout.
Donc,
je vais vous donner une preuve par l'exemple. Israël a été le premier à aller dans ce sens-là, même si ça allait contre les intérêts de son agriculture. Ils ont dit, si vous n'appliquez pas ces sanctions, ces mesures douanières, eh bien nous, on abaissera également nos barrières douanières. C'est un exemple qu'a voulu suivre le Canada aussi. Doug, le ministre de l'Intérieur, ministère des Finances de l'Ontario, qui était très vindicatif contre Donald Trump, a dit, bah voilà, nous, on ne mettra pas de sanctions si vous abaissez ce que vous êtes en train d'appliquer.
Le Canada, le Premier ministre canadien, McCarney, justement, lui, est plutôt dans la logique de l'escalade. Donc ça, c'est factuellement absolument faux.
Ou de la fermeture, je veux dire. Non, ce que vous dites, c'est que visiblement, donc ces taux sont le maximum possible et que donc, maintenant, tout est sur la table et on va négocier. C'est ça que vous dites. Et qu'éventuellement, le taux de 20% applicable à l'Union européenne, il peut être négociable et on pourrait descendre, je sais pas moi, à 18, puis 15. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, que ça, c'est les taux maximum.
Je maintiens que c'est un plafond et qu'il est capé et qu'à partir de là, c'est libre à nous d'être volontaristes et de voir un peu comment est-ce qu'on peut favoriser des échanges, pas juste libres, mais juste égaux sur une terme de réciprocité qui, je pense, doit être le maître mot qui est ressorti de cette discussion. Comme vous voyez, par rapport aux chiffres auxquels... Voilà.
C'est quoi, Nicolas Conquer, l'intérêt derrière pour Donald Trump? Parce que certes, il va y avoir des rentrées qui évaluaient le risque de récession à 35% si Donald Trump appliquait ses droits de douane. Donc en quoi ça ramènerait un âge d'or américain?
Ces mêmes experts de Goldman Sachs sont ceux qui ont contribué à ce qu'il y ait toute une désindustrialisation de l'Amérique et que ces boulots soient outsourcés, externalisés et qu'on fasse travailler l'Asie ou ailleurs au détriment des Américains. Il y a 90 000 usines, rendez-vous bien compte, 90 000 usines qui sont laissées à l'abandon. Donald Trump a donné la parole à des ouvriers sur chaîne qui ont le souvenir de son premier mandat où en 2018, l'industrie et l'économie étaient florissantes grâce à, d'ailleurs... Rappelez-vous des mêmes sanctions douanières mises en place par Donald Trump. Ouais. Donc ça va contribuer à relancer l'emploi.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé notamment sur Airbus et Boeing, puisque vous vous rappelez la question des droits de douane. On sait qu'ils ont été imposés sur Airbus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par exemple toutes les compagnies aériennes, ça soit même y compris américaines, sont allées commander des Airbus et n'ont plus commandé des Boeing. Et c'était un peu le début de la chute de Boeing. Oui, donc bon, c'est pas si clair, c'est pas si évident que ça.
Surtout ce qui me semble assez incompréhensible, juste une remarque, vous parlez de réciprocité comme étant le maître mot de la soirée, pas du tout. Le maître mot, c'est le Big Bang, c'est le bazooka, c'est des taxes, et c'est négocier les droits de douane avec un pistolet sur la tempe. C'est ce que fait Donald Trump avec le monde entier, avec les Européens, avec la Chine, avec le Vietnam, avec l'Inde. Comment pouvez-vous parler simplement de réciprocité? Et puis je m'étonne que vous défendiez la politique de Trump. En tant que bon citoyen français, vous devriez plutôt dire à Trump, mais Donald, tu exagères, j'aime beaucoup ta politique, mais c'est trop c'est trop, 20% de taxes c'est trop, sur nos automobiles, sur notre vin, sur notre cognac, sur notre champagne, sur nos médicaments, sur nos avions. N'est-ce pas?
Allez exprimer ça auprès de la Commission, c'est eux qui négocient mal ces barrières.
Non mais vous qui défendez Trump ce soir, vous qui défendez Trump ce soir en tant que Français, est-ce que vous ne devriez pas plutôt prendre l'avion pour la Maison Blanche en disant arrêtez cette guerre commerciale que vous lancez?
Non mais moi je suis pour un abaissement de ces barrières douanières et donc c'est à l'Union Européenne de...
Et c'est Trump qui met une barrière de 20%, donc si vous êtes contre, comment pouvez-vous les défendre?
Non mais en fait les exemples que vous avez choisis sur le Vietnam et l'Inde sont assez cocasses parce que c'est sans doute les pays les plus protectionnistes parmi ceux qui ont été cités, je vous renverrai à son tableau. En ce qui concerne les automobiles, on l'a vu et c'est un exemple qui est flagrant, 2,5% de taxes d'importation pour les voitures européennes qui arrivent aux États-Unis à l'heure actuelle avant la mise en place de cette nouvelle mesure, 10% pour les voitures américaines qui arrivent en Europe. Vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de réciprocité là-dessus et qu'on est soumis aux intérêts de l'industrie.
25% sur les SUV déjà aux États-Unis.
On est soumis aux desiderata de l'industrie allemande dont la Commission européenne défend exclusivement les intérêts au grand détriment de l'industrie française. Je rappelle juste qu'avant qu'on rentre dans cette Liberation Day, la conférence qu'a tenue Donald Trump, tout le monde s'était affolé en pensant qu'il allait y avoir 200% d'imposition sur la filière vin et spiritueux, qui évidemment n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un emballement, une agitation, mais les observateurs sérieux ont su comprendre la part de rhétorique, même les marchés n'ont pas pris ça.
Nicolas Conquer, une dernière question. Bon, on a bien compris que vous ne changerez pas d'opinion sur Donald Trump malgré cette politique commerciale contre l'Union européenne et contre la France. Et les Américains, je disais tout à l'heure, il va y avoir un impact sur le consommateur américain de fait. Est-ce qu'il ne risque pas de le payer auprès de l'opinion américaine?
Alors moi, je veux le succès de Donald Trump. Et évidemment, ça se passe par une réussite économique. Vous connaissez le dicton « It's the economy stupid », c'est-à-dire que si l'économie n'est pas au rendez-vous, Donald Trump ne va pas remporter l'élection de mi-mandat et ça va faire la place pour les démocrates pour les années à venir. Donc c'est évidemment, je souhaite son succès. Il a conscience du fait que ça va générer une petite friction et que temporairement, il puisse y avoir une petite douloureuse, mais sur le long terme, c'est ça, c'est bénéfique. Non, mais non, absolument, parce que ça recrée des emplois aux États-Unis. Il y a une recréation de cette valeur et on travaille sur un marché domestique. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des sanctions douanières que le coût est répercuté sur les consommateurs. C'est absorbé, en général, par les industriels. De la même manière, quand il y a des fluctuations sur les taux de change, c'est pas le consommateur qui absorbe cette différence.
Bon, donc, merci, vous vous réjouissez qu'on détruise des emplois en Europe pour créer des emplois aux États-Unis, c'est ça?
Non, mais j'attends à ce que, à la même manière que Donald Trump qui dit qu'il faut faire America first, qu'on ait des leaders européens qui disent qu'il faut faire France first, il faut faire Germany first, il faut créer des emplois, relancer le protectionnisme et pas tomber dans cette série de gouvernances successives qui ont contribué à la désindustrialisation. Et je le regrette, auquel vous avez pu également contribuer. Donc, il faut réindustrialiser la France et assurer notre souveraineté et défendre nos intérêts stratégiques.
Donc tout le monde met des murs douaniers et tout le monde applique une politique protectionniste. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, Nicolas, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché.
Non, ça n'a jamais marché. Les politiques protectionnistes n'ont jamais marché. Et les politiques protectionnistes qui ont été prises par le président Trump, il y en a eu quelques-unes lors de son premier mandat en 2018, il est parfaitement documenté qu'elles ont eu des effets négatifs. C'est vrai qu'elles ont permis de recréer quelques emplois dans l'industrie, mais pour un coût pour le consommateur qui est tellement gigantesque qu'il aurait même mieux fallu, c'est documenté, donner carrément de l'argent public pour créer de faux emplois. Même une politique aussi brutale que celle-ci aurait été plus avantageuse que ce qui a été fait en 2018.
Dans cette guerre commerciale, on n'est pas tous logés à la même enseigne et les Européens ont fait figure de mauvais élèves pour Donald Trump. Écoutez.
Vous voyez la Chine ici, 67% de droits de douane. Et nous, nous allons appliquer 34%. Donc, on leur fait payer moins finalement. Il n'y a pas de raison d'être fâchés. Mais ils vont être fâchés quand même parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse payer quoi que ce soit. L'Union européenne, ils sont très durs dans le commerce. Parfois, on pense à l'Union européenne, ils sont très sympathiques. C'est vraiment pathétique. Ils nous font payer 39% et nous, on va les faire payer 20%.
Les mots, Roselyne, employés par Donald Trump, l'Union européenne, on pense qu'ils sont sympathiques, mais en fait, parfois, ils sont pathétiques.
C'est-à-dire, il est brutal. J'ai l'impression de voir un sketch des tontons flingueurs.
Oui, c'est du brutal.
C'est ça. Je vais les disperser façon puzzle. Ouais. Ils vont voir comment ils réagiront.
Je vais ventiler, ils vont être dans tout Paris.
C'est exactement ça. C'est très triste parce que l'Amérique, c'est une très longue histoire entre la France, entre l'Europe et, enfin, surtout la France et les États-Unis. Et ce sentiment, peut-être sentiment que vraiment il y a une trahison parce que les hommes ensemble ils ne vivent pas que de l'économie, ils vivent d'échanges de culture, ils vivent d'échanges et Dieu sait si l'industrie culturelle américaine est présente, il n'en parle pas beaucoup. Oui. Donald Trump, l'industrie culturelle est présente dans nos pays, c'est tout ça qui fait que le monde marche ensemble et qu'il arrive à peu près à vivre en paix. Parce que derrière, moi ce qui me fait peur, c'est que derrière les guerres économiques se profilent toujours des guerres politiques. Toujours. Ouais. C'est ça la déstabilisation. Des guerres tout court, oui. Quand je parle de guerre politique, c'est-à-dire de guerre armée. C'est la conséquence inéluctable de tout ça.
Mais la guerre avec l'Amérique, Roselyne, elle a déjà commencé.
Oui.
On est dans une guerre idéologique. On a vu le vice-président des États-Unis qui est venu en Europe pour dire aux Européens qu'ils avaient tout faux et qu'ils portaient atteinte à la démocratie en Europe. Et la guerre commerciale aujourd'hui qui s'annonce, effectivement, c'est la conséquence de la guerre idéologique.
Et il est venu déstabiliser certains pays, comme l'Allemagne, où il est intervenu en pleine campagne électorale pour s'opposer à celui qui va devenir chancelier. Donc ils vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils sont dans une tentative de déstabilisation des démocraties européennes. C'est ça aujourd'hui la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe.
Roselyne Blachour vient de parler du Groenland. Moi, je m'étonne qu'on n'en parle pas plus. Il y a une politique américaine très agressive, dans les mots, à l'égard du Groenland. Le président Trump a redit le Groenland deviendra américain, quelle qu'en soit la façon.
Je vous rappelle que la France a reçu le roi du Danemark.
J'en suis sûr.
Je crois même qu'il y a encore
grand dîner d'État hier à l'Élysée.
Exactement. Groenland est un territoire de l'Union européenne. C'est donc une attaque des intérêts de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est une attaque des intérêts.
Je pense qu'il y a beaucoup d'Européens qui l'ont découvert récemment.
Oui, d'accord. Mais moi, je suis patriote européen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe et la France.
Je suis comme vous, Nicolas. Mais je pense que les Européens n'ont pas tous saisi que le Groenland était d'abord dans le territoire de l'Union européenne.
Mais je m'étonne néanmoins qu'on ne s'en émeuve pas plus.
On s'en est ému quand même. Il y a eu beaucoup de réactions ici.
Non, ça me semble vraiment d'une gravité,
oui, ça paraît pour
une gravité tout à fait exceptionnelle.
Alors attendez, il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué ce soir. Les citoyens. Est-ce que les citoyens français, européens, ils peuvent agir? Et ce mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le boycott.
Boycott.
Est-ce que ça peut être un levier d'action, le boycott?
On l'avait sondé à la tribune du dimanche. On avait sondé à la tribune du dimanche cette volonté de certains de boycotter les produits américains. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même une part majoritaire de Français qui étaient favorables à l'idée de ce boycott. C'était pas non plus flagrant. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, en France, l'opinion française, elle a déjà fait son opinion sur Donald Trump. Elle désapprouve Trump sur tous les sondages, autour de 7 Français sur 10 qui désapprouvent toutes ses actions, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine, que ce soit en matière commerciale. C'est à peu près quand même 10 points de moins que lors de son précédent mandat. Donc, faut voir comment ça va évoluer. Et globalement, dans la classe politique française, à part un peu Reconquête et Éric Ciotti, il ne doit pas y en avoir d'autres qui soutiennent.
Rassemblement national a pris ses distances avec Donald Trump.
Parler de boycott, je crois qu'il faut se souvenir de ce que font les Canadiens. Au lieu de dire on boycotte, ils disent achetez Canada. Et dans les rayons des supermarchés canadiens, québécois et autres, les produits américains sont déplacés et on met des petites affichettes « acheter canadien ». On pourrait mettre « acheter français »,« acheter européen », par exemple. C'est mieux que le boycott qui a un caractaire négatif.
Mais ça revient à la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Parce qu'on n'est pas dans l'agression et dans la guerre, justement. On est dans vous êtes mécontents, achetez français, faites plaisir aux industriels, aux agriculteurs, aux producteurs de produits français ou européens. Les Français, comme les Européens, ont déjà réagit à Trump. Il y a une chute du tourisme aux États-Unis en particulier qui est extrêmement importante. Les Français ne veulent plus, comme avant, aller aux États-Unis, comme ils le faisaient régulièrement pour les vacances, ceux qui ont les moyens en tout cas. Et donc, ça va être un impact important. Il y a aussi, effectivement, il y aura certainement une réaction sur les produits culturels américains.
On va voir ce qui se passe sur Netflix, le cinéma américain.
Mais il y aura certainement des...
Vous pensez qu'il va y avoir rejet, peut-être
C'est mieux que boycotter, parce que de toute façon, on n'est pas en guerre avec l'Amérique. C'est l'administration Trump, c'est pas les Américains, c'est pas les créateurs géniaux du cinéma américain. C'est l'administration Trump, qui lui-même est un personnage de série, avouez-le.
Poutine sable le champagne.
Alors, très intéressant, mais je vois que Roselyne, vraiment, il faut la faire venir à l'Élysée pour conseiller Donald Macron.
Donald Trump n'est pas encore à l'Élysée.
Vous avez remarqué une chose, quand vous avez dit on n'a pas prononcé un mot.
Sur la Russie, oui.
Pas de Poutine, pas de Moscou,
elle
pas d'Ukraine.
Elle ne fait pas partie du classement.
Parce que Trump a annoncé qu'il allait prendre des nouvelles sanctions, notamment sur des barrières douanières sur le pétrole russe, si Poutine ne veut toujours pas signer un cessez-le-feu en Ukraine. Donc, en ce moment, Trump est mécontent de Poutine. Le cessez-le-feu...
Le pétrole russe, il ne vient pas tellement aux États-Unis.
Hein. Non, mais il se vend partout dans le monde. Donc, il veut prendre des nouvelles mesures, des sanctions contre les exportations de pétrole et de gaz russe. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Parce qu'en fait, il est en négociation avec Poutine sur l'Ukraine et il n'a pas voulu mélanger.
Donc, c'est un autre classement.
Il n'a pas voulu mélanger.
C'est à part, c'est hors catégorie.
Mais je rappelle que pour l'Arctique, il y a une dimension stratégique très importante. Ce n'est pas uniquement l'économie. Ouais. C'est l'Arctique, c'est finalement c'est une potentielle base militaire. La base justement où transite tout le commerce, les sous-marins russes et du monde entier. Donc c'est stratégiquement la raison pour laquelle Trump a décidé en tant qu'empereur, nouvel empereur du XXIe siècle, de s'approprier le Groenland d'une manière ou d'une autre.
Mais Nicolas Bouzou, j'aimerais revenir sur la possibilité de boycott ou de rejet, pour que ce soit moins négatif, des produits américains. Est-ce que la pression populaire, la pression des citoyens, c'est un levier d'action qui pourrait être efficace?
Non, au Canada, c'est très puissant. Moi, je passe une partie de mon temps au Canada. C'est vraiment très spectaculaire, notamment en effet sur les destinations de vacances, parce que les Canadiens, l'hiver, vu le temps au Canada, vont pas mal en Floride. Et cette année, vraiment, les voyages vers la Floride se sont effondrés au profit des Caraïbes. Mais je le dis quand même, je déconseille le boycott parce qu'on ne sait pas ce qu'on boycotte, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un produit qui est estampillé américain, vous pouvez avoir des composants européens, vous pouvez avoir des composants français. Donc, sans le vouloir, en fait, on peut faire du mal à de l'industrie française. Donc, c'est très compliqué. Il faut être un spécialiste du boycott si on veut s'amuser à ça.
En une minute, Ulysse Gosset, pour que ceux qui nous rejoignent, que faut-il retenir ce soir des annonces de Donald Trump?
Trump a décidé de taxer le monde entier de 10% au minimum, et de 20% pour les Européens, et de 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde et 46% pour le Vietnam. Donc c'est un coup de massue sur le commerce mondial. C'est le plus grand événement en matière de barrières tarifaires depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods, et selon les experts, depuis plus d'un siècle, on n'avait jamais vu ça. Donc c'est un grand coup de massue sur l'économie mondiale, avec le risque de répercussions très importantes, risque d'inflation aux États-Unis, mais aussi risque de récession dans le monde entier.
Dans le monde entier, et on verra la réponse, la riposte européenne, et ça pourrait avoir aussi absolument des conséquences pour nous, consommateurs français. Merci beaucoup à tous les six d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Et demain soir, ne manquez pas notre émission spéciale à 21h avec Maxime Switek. Trump, la guerre commerciale est déclarée. Très bonne soirée, à demain.